con su nietecita que estaba de ajá. Les pidió a los santos paz y tranquilidad para aquella noche de viagra champán. Dame una copita y un coiba, por favor, que comenzó la rumba, un tremendo vacilón.
Vacilón, vacilón.
Dimanche 22 avril.
Entre les deux.
Entre les deux. Donc on est à Vidéodrome 2, mais c'est un dimanche après-midi, il fait beau. On est avec Sylvain Chomel.
Dreyer.
Dreyer, d'accord. Bon, ça commence bien. Ah ouais, j'ai pas vu. Et on va parler aujourd'hui de Armand Gatti et d'El Otro Cristobal, parce que mercredi de cette semaine, on a assisté, mais finalement, on n'a pas assisté à une projection de ce film de Gatti qui a été très peu diffusé. Il y avait une copie 35 mm qui était là, et finalement la copie 35 mm était un peu trop abîmée et on n'a pas eu l'occasion de voir le film. C'est pour ça que Sylvain nous présentait le film comme un film maudit qui n'avait pas trouvé son public, et là c'était intéressant parce qu'il y avait le public mais on n'arrivait pas à montrer le film. Donc voilà, on va parler aujourd'hui avec Sylvain de El Otro Cristobal, de la production cinématographique à Cuba après Révolution, on peut dire aussi du cinéma militant ou de l'engagement révolutionnaire avec le cinéma. C'est un peu tout ça qu'on va travailler. Donc, El Otro Cristobal, comment tu as rencontré cette histoire, toi ?
En fait, moi je suis enseignant-chercheur en cinéma et je m'intéressais à l'engagement, on va dire, internationaliste, anti-impérialiste des écrivains et des cinéastes dans les années 60-70. Et donc, El Otro Cristobal, c'est un film qui, c'est vrai, qui est assez inconnu, mais qui est très important dans ce contexte-là, donc des cinéastes ou des intellectuels qui se sont engagés à ce moment-là, quoi, aux côtés de peuples en lutte. Voilà, donc je peux raconter un petit peu l'histoire du film. Comment j'ai découvert le film, franchement, je ne m'en rappelle pas. C'était en m'intéressant à Armand Gatti. On peut dire peut-être déjà aussi un mot de Armand Gatti, parce que,
à
l'issue de la projection dont tu parlais, les gens m'ont dit c'est bien joli, mais en fait, on ne sait pas qui est Armand Gatti. Donc, on peut rappeler.
Bah, même s'il est mort il y a un an, à peu près.
Ouais, il y a un an et demi, ouais. Et puis là, donc, à Marseille, cette semaine, il y avait toute une série d'événements autour d'Armand Gatti. Donc, en plus, bon, par exemple, la Vidéodrome, la projection de son œuvre cinématographique intégrale, à peu près. Ouais, donc je peux dire un mot sur Armand Gatti. C'était. Bon, il est surtout connu en tant que dramaturge. C'est quelqu'un qui a une vie assez incroyable, très mouvementée. Il a été résistant. Il a été arrêté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il a une vie assez incroyable. Après, il est devenu journaliste, donc après-guerre. Et il était reporter, il a couvert des événements assez, assez importants. En particulier, il était au Guatemala en 1955, lorsque les États-Unis en fait, ont renversé un gouvernement, on va dire, pseudo-socialiste de Arbenz. Donc voilà, une sorte de coup d'État appuyé par les États-Unis contre une expérience socialiste. Et ça a été un peu le révélateur pour lui. Lui était le journaliste, reporter, un petit peu même, il faisait des reportages assez classiques pour France Soir. Tu vois, c'était pas du tout des trucs engagés spécialement. Et puis bah, quand il était au Guatemala, il a été pris, si tu veux, dans un combat, dans un échange de tirs. Et il était avec un interprète. Un jeune homme, quoi, un jeune guatémaltèque qui parlait français. Et puis, donc c'était son traducteur. Et donc, pendant cet échange de tirs, le garçon se lève et il dit ne tirez pas, no dispalen, somos periodistas français. On est des journalistes français. Et là, il se prend une balle et il meurt. Quoi. Et donc, ça a été un peu une sorte de révélateur pour Gatti de voir ce garçon mourir à côté de lui. Donc, là, on est en 55. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi un jeune révolutionnaire qui se trouvait au Guatemala à ce moment-là, un certain Che Guevara, un certain Ernesto Guevara, qui va retrouver quelques années plus tard à Cuba. Voilà. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Bon, à partir de là, donc il a dit je vais essayer de mettre mon écriture, de passer d'une écriture journalistique qui est quand même du côté du pouvoir, on va dire, à une écriture plus artistique, littéraire. Il avait toujours eu des relations un peu avec le milieu surréaliste, Michaud, des gens comme ça. Et donc là, il commence à écrire des pièces, et c'est des pièces qui ont un certain succès, qui sont vues par pas mal de monde, parce que certaines sont montées par Villard au TNP, un Chaillot, dans le contexte comme ça du grand théâtre national populaire qui veut s'adresser à tout le monde, quoi. Voilà, donc dans l'institution finalement. Hein. Et puis en fait, ça va assez vite dégénérer, et puis finalement, à peu près en 68. Il sort de l'institution. Alors il continue à écrire, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très graphomane, quoi. Il a écrit des dizaines et des dizaines de pièces, quoi. Si tu regardes ses œuvres complètes, ça fait 50 cm dans une bibliothèque quand même. Donc des pièces plus engagées, en particulier une série de pièces en mai 68, des sortes de pièces d'agite propre qui peuvent être montées très facilement, tu vois, avec très peu d'acteurs, pas de décor. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle La journée d'une infirmière, il y a une pièce sur le Vietnam, voilà, justement, il y a une pièce sur Cuba, c'est aussi. Et puis à ce moment-là, il déménage en Allemagne, enfin il s'exile en sortant en Allemagne, il est assez proche des révolutionnaires aussi, Rotterdam et Fraction, comme ça, à ce moment-là. Et puis voilà, il continue, bon, je ne vais pas raconter sa vie en entier, mais bon, voilà, il continue dans le théâtre marginal, en fait. Et donc en parallèle de ça, il va développer une activité cinématographique. Donc en 61, L'Enclos, c'est le premier film qui est produit par la RDA, si je me rappelle bien. Par la RDA, je crois.
D'accord.
Voilà, qui est tourné en Tchéquie. Enfin, c'est un film bloc de l'Est, quoi. Il y a le film, il y a un scénario qui est tourné en Corée. Et puis il y a El Otro Cristobal, donc c'est son deuxième long métrage, finalement.
D'accord.
Alors à ce moment-là, puis après, bon, il aura d'autres films, hein, au total une petite dizaine de films. On va peut-être pas les évoquer, mais je voudrais quand même en citer un qui s'appelle Le Lion, sa cage et ses ailes, qui a été tourné donc à la fin des années 60 auprès des ouvriers immigrés de Sochaux, de Peugeot. Hein, Peugeot. Je sais plus si c'est le site de. Non, je crois que c'est le site de Montbéliard, enfin, je sais plus. Avec les ouvriers de Peugeot en tout cas. Voilà, c'est un film qui dure.
Ouais, qui est en plusieurs parties.
Ouais, qui est en 6 parties. À chaque fois des nationalités.
Voilà, un peu communautaire en
fait. Ouais, ouais, c'est ça. Qui sont conçus, voilà. Donc effectivement, Gatti hors institution et il est aussi hors structure professionnelle très hiérarchisée. Parce que voilà. Même dans L'autre Cristobal, le film là, sur lequel on va un peu s'arrêter, il y a une remise en cause assez radicale de toute la. La hiérarchie de production, de travail.
Mais alors tu dis que c'est en fin 60 qu'il fait ses films comédies, parce que donc c'est après les groupes Medvedkin.
C'est en même temps.
Il fait ça en même temps.
Ouais, c'est à peu près en même temps. D'accord. Oui, c'est totalement synchrone. Parce que les groupes Medvedkin, en gros, c'est entre 67 et 75.
Ouais, ouais.
Et j'ai plus la date précise en tête, mais là, le film sur Peugeot, c'est 69, je crois.
D'accord. Ah ouais, c'est...
Ça peut pas. Mais il n'y a pas de...
Ils sont pas en lien, il y a pas de...
Non, pas à ma connaissance, non.
Ouais. Parce qu'après, il rencontre à un moment Chris Marker, où il l'a déjà rencontré.
En fait, c'est avant, ouais. Voilà. Donc effectivement, après Gatti dans le milieu du cinéma, effectivement c'est quelqu'un qui va par Villard par exemple, qui était aussi proche de Varda. Hein. Varda, elle a commencé comme photographe pour Villard.
D'accord.
Donc elle était photographe de théâtre, de plateau, quoi, si tu veux. Et donc Gatti fait partie de ce groupe qu'on appelle le groupe Rive Gauche, pour le différencier du groupe des Cahiers du Cinéma qui était Rive Droite. Alors c'est une définition géographique par rapport à Paris. Et Rive Gauche, Rive Droite, puisque effectivement le groupe Rive Gauche c'est plus germano-pratin, quoi. C'est des gens qui sont plutôt dans le Saint-Germain ou à Montparnasse, hein. Varda elle est toujours à Montparnasse d'ailleurs aujourd'hui. Et puis il y a la Rive Droite, le Cahier du Cinéma, donc les bureaux du Cahier du Cinéma étaient sur les Champs-Élysées, voilà. Donc c'est une réalité géographique, et puis c'est aussi une réalité politique, parce que effectivement à l'époque, le groupe Rive Gauche est plutôt de gauche, plutôt proche des communistes. C'est influencé par Sartre aussi, alors que le groupe Rive Droite, comme ça se ressent dans les premiers films de Godard ou de Romer, c'est un cinéma qui est plus comme ça anarchiste de droite. Anarchiste de droite.
Ouais, et puis qui s'intéresse où on a moins une question de l'approche entre guillemets, de la question du peuple.
On est sur des destinées.
On filme
des trajectoires individuelles, de gens qui sont un peu marginaux.
Mais marginaux étudiants ou marginaux intello.
Oui, intello. Intello. On peut nuancer, parce qu'un mec comme Godard, c'est quelqu'un qui a une culture ultra large, donc il est aussi bien influencé par Aragon que par Céline, quoi.
D'accord.
Voilà, donc c'est dans ce milieu-là. Et donc effectivement, Gatti, il est proche de Chris Marker, de Agnès Varda. Salut.
Salut Julien. Julien du Vidéodrome 2 vient de nous rejoindre. Alors tu disais, Gatti est plus influencé par Varda.
Ouais, les plus dans ce milieu-là, Varda, Marker. Et effectivement, donc il y a plusieurs épisodes qui se passent avec Chris Marker. Il y a le voyage en Sibérie, qui va donner Chris Marker son premier film. C'est son deuxième en fait. Bon, c'est Lettres de Sibérie, hein, le premier court-métrage remarqué de Marker. Bon, il avait fait un film avant sur les Jeux Olympiques, mais bon, peu importe. Gatti fait partie de cette équipe là qui sont en Sibérie. Et d'ailleurs, Gatti à ce moment-là fait un bouquin qui s'appelle Sibérie moins zéro plus infini, qui est une sorte de guide de voyage poétique sur la Sibérie. Et qui est un peu dans l'esprit. Après, Marker, il va diriger c'est au Seuil, la collection Petite Planète, hein, en fait, qui sont des sortes de guides de voyage un peu alternatifs, une sorte d'ancêtre du guide du retour. Enfin, il n'y a pas les adresses d'hôtels et tout ça, mais c'est une approche assez originale, quoi. Tu vois, il y a un volume par pays, comme ça. Et en plus, Gatti, il fait ce truc, c'est avant la naissance de cette collection, mais il va faire un livre pour cette collection qui est celui sur la Chine. Voilà. Gatti va faire le bouquin sur la Chine de Petite Planète. Voilà, il y a ça, il y a l'expérience coréenne pendant laquelle donc Gatti va écrire le scénario là, Mort en Bong. Bon, Marker il fera pas le film.
Jean-Claude Bonnardo.
Comment ?
C'est Jean-Claude Bonnardo.
Le Mort en Bong, voilà. Mort en Bong, c'est réalisé par Jean-Claude Bonnardo. Voilà. Et donc après Cuba, donc après il y a Cuba.
Voilà.
Alors Je sais pas, parce que alors sur Cuba, ça dépend un peu du son de cloche. On peut lire, Gatti peut dire ouais c'est moi qui ai introduit Marker à Cuba. Marker peut dire c'est moi qui est là. On sait pas trop. On s'en fout un peu.
Ouais, ouais.
C'est pas très grave.
Mais en tout cas, ils y arrivent à la même période.
Voilà. En fait, Marker un peu avant quoi, quand même.
Gatti disait que c'était par le pied de Guevara qu'il était arrivé à Cuba.
Voilà, c'est Gatti. Voilà, Gatti dit ça. Ouais. Ouais. Donc comment effectivement on parlait de ça, de Guevara tout à l'heure, qu'il avait rencontré au Guatemala en 55.
Ouais, avant. Ouais.
Voilà. Donc en fait Gatti il arrive par les plus hauts, comment dire, par ceux qui sont au sommet de l'État quoi.
Ouais, ouais.
Donc Castro et Guevara quoi.
D'accord, ouais, ouais.
Et,
il arrive en quelle année alors?
Alors Gatti il va faire son film en fin 62, début 63.
Et la révolution a eu.
En 59. C'est tout début 59 la révolution. Alors voilà, donc en fait. Bon, si on s'intéresse un petit peu à les Français et Cuba, hein, donc les cinéastes français, les intellectuels français, les écrivains français et Cuba, le tout premier à aller à Cuba post-révolution, donc en 59, c'est Gérard Philippe avec sa femme. Voilà, alors Gérard Philippe qui est une star immense, donc ça donne un éclairage. Les Cubains vont beaucoup être à la recherche de liens avec les intellectuels français, dans la mesure où l'État français est contre, est contre Cuba, hein, ok, les Français, De Gaulle, on va dire, plus ou moins, ils ont choisi leur camp, même si, De Gaulle se voulait un petit peu entre, pas totalement affilié aux États-Unis, mais bon, voilà, de fait, la France est anti-Cuba, quoi. Enfin, officiellement, la France est anti-Cuba. Donc, les Cubains, ils vont chercher l'appui des intellectuels, en particulier européens, en particulier français. Alors, après, il y a un personnage quand même hyper important pour cette histoire des Français et Cuba, c'est Sartre. Parce que Sartre, il va en 1960 avec Simone de Beauvoir, il va passer 6 semaines à Cuba. Donc là, c'est assez hallucinant. Donc il écrit un reportage qui s'appelle Ouragan sur le sucre, qui est publié dans France. Donc c'est Sartre qui a choisi. Il aurait pu publier dans Les Temps modernes, qui était donc la revue qu'il avait créée en 1948, hein, qui défendait une ligne bien particulière de l'écriture engagée. Et donc il va choisir de publier ça dans France Soir, si je me rappelle bien, parce que c'est le journal qui a le plus important tirage, donc c'est un million d'exemplaires quotidiens.
D'accord.
Donc il y a 1 million de Français, si tu veux, qui peuvent lire le reportage de Sartre sur Cuba à cette époque-là. Et en plus, sur tous les tout premiers numéros, donc pour François, c'est un scoop aussi que Sartre, si tu veux, c'était l'intellectuel numéro un mondial quasiment. Quoi. Et donc c'est marrant parce que le premier reportage, c'est carrément sur la première page, le reportage de Sartre, sur Cuba. Et puis après, même dans tous les numéros, donc ça va durer quand même, je crois qu'au total, il y a une quinzaine ou une vingtaine de numéros de François, donc avec la suite du reportage. Et chaque fois, tu as au moins un truc en première page, la suite du reportage cubain. Quoi. Bon, et ce reportage, il est assez marrant. Quand on connaît Sartre, on l'imagine pas tellement, tu vois, sur les. Voyager comme ça, dans les voilà. Bon. Bref, on le voit plutôt à Paris, dans ses cafés, tout ça. Bon, c'est assez rigolo parce qu'il est. Son guide, c'est Castro, en fait. Son guide sur l'île, c'est Castro. Et donc il raconte qu'il voyage avec Castro. Bon, le reportage est très élogieux. Hein. Il est 100%, il adhère à 100%. On pourra peut-être dire un peu, revenir aussi un petit peu sur le côté idéologique. Mais Sartre est fasciné en fait. Quoi. Alors que Sartre, c'est pas a priori quelqu'un qui se laisse impressionner, si tu veux. Il est fasciné par Castro, par ce sort de géant. Un peu héros grec comme ça. Il y a un côté comme ça, Achille. Bon, et en particulier, juste une petite anecdote, dans ce reportage, à un moment, ils arrivent sur une plage, donc Castro, Sartre et Beauvoir, ils s'arrêtent sur une paillote, donc ils ont soif, moi aussi je soif.
Vas-y, bois un petit coup.
Et donc, il leur offre une limonade. Et puis, le frigo marche pas, quoi. La limonade est chaude, alors Castro est furieux. Et donc, il va trifouiller le frigo. Il va faire redémarrer le frigo. Et ils auront, voilà. Et donc, tu vois, c'est l'image du dirigeant qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour régler les petits problèmes.
Voilà. Ce qui peut être des choses qui fascinent Sartre.
Ouais, c'est marrant, quoi.
D'accord.
On a des trucs un peu pareils, c'est dans le tombeau d'Alexandre, de Marker, au moment il y a un délire sur les films de propagande prousseliniens, de Ciaurilli, où il y a un tracteur qui se trouve en panne sur la panne rouge. Donc Marker a dit oui, comme souvent il y a des tracteurs sur la place rouge, c'est normal. Il y a justement Staline qui se balade là en fumant sa pipe et qui va faire redémarrer le tracteur. Enfin bon, il y a tout un thème là qu'on retrouve dans plusieurs. Voilà, la scène du tracteur dans la ligne générale de Eisenstein, des trucs comme ça. Tu vois, un peu ces machines qui symbolisent le progrès de la révolution, qui tombent en panne, et là, le dirigeant, il est prêt à redémarrer le moteur de la révolution, quoi, en quelque sorte. Quoi. Bon, c'est une petite anecdote. Okay. Sur Sartre à la plage avec Castro.
Ok, ok. Donc, lorsqu'il fait Getty, lui, il arrive en... Il arrive en quelle année, tu disais, Getty?
62.
62. Mmh. D'accord. Et donc, il est, quand il arrive en 62, il a... Ce film-là, comment il naît, quoi? Il a déjà l'idée avant, c'est une commande, c'est une production d'État,
Ouais, donc c'est une production d'État. Il l'écrit sur place, quoi.
Il écrit sur place.
Ouais, il écrit sur place.
Il n'a pas d'idée avant, il est juste peu fasciné par
non.
cette
Il connaît un petit peu l'Amérique latine, parce qu'en fait, El Trio Cristobal, ça parle pas directement de la révolution cubaine, parce que en fait, c'est une sorte de lutte un peu atemporelle, il se place un peu sur le plan métaphysique.
Le générique, si je me souviens bien, il est le producteur et co-créateur du scénario, quelque chose comme ça.
Ouais, Ulrich, là. Ouais. En fait, ça c'est un arrangement, en fait, pour qu'apparaisse son nom. Quoi. Ouais, mais il a pas...
Je vais lire, je vais juste lire le petit résumé.
Ouais.
Comme ça, de El Otro Cristobal, donc un film en 1963, 1h48, 35 mm, noir et blanc. Le dictateur Anastasio tente de renverser le dieu Olofi, chef suprême du ciel. Mais un prisonnier politique, Cristobal, et ses amis vont libérer le ciel avant de retourner au bonheur terrestre. Voilà, donc ça dit quelque chose, ça dit aussi pas grand chose, c'est très résumé. Mais comme tu le disais l'autre fois... Quand tu l'as présenté la mercredi au Vidéodrome 2,
ouais.
Tu as lu un autre résumé et ouais, tu as expliqué que c'était très dur de faire un résumé de ce film et qu'en fait la question de la narration sur ce film était très complexe. D'une part parce qu'il y avait une version de 3 heures et des brouettes et qu'ils ont décidé d'en faire une version d'1h48, donc ils ont un peu coupé à la hache,
ouais.
Et qu'ils ont fait le choix de mettre une voix pour essayer de compenser les bouts enlevés, et ce qui fait que c'est
ouais, une
histoire, une voix off, et ce qui fait que l'histoire d'un point de vue narratif est très complexe à s'approprier.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. En fait déjà le scénario à la base est très surréalisant, donc assez délirant, donc effectivement ça bouscule les habitudes de narration que tout un chacun peut avoir en rentrant dans une salle de cinéma, quoi, parce que voilà, Gatti, que ce soit dans son théâtre ou dans son cinéma, c'est toujours assez délirant, l'inventivité, quoi. Donc alors effectivement, à l'origine c'est un projet de super production, puisque je parlais tout à l'heure des films de Varda, des films de Harker, ce sont des petits documentaires qui durent 30 minutes avec un dispositif très léger. En fait Varda c'est un film à base de photos, et Harker bon c'est des plans comme ça, mais bon, rien de très lourd. Alors avec le film de Gatti c'est vraiment un gros projet qui va impliquer plusieurs dizaines de techniciens, plusieurs dizaines d'acteurs. C'est tourné dans des énormes studios qu'avaient construit les Américains à côté de la Havane, hein, Kubanakan. Donc c'est un projet qui a toute la faveur, on va dire, des plus hautes têtes du régime. Même l'armée va mettre à disposition des véhicules, des figurants, voilà, des trucs comme ça. Il y a vraiment un énorme engagement sur ce film et les Cubains en attendent beaucoup. Et ça va être le film, ils vont le pousser pour qu'il soit à Cannes, au Festival de Cannes en 1963. Pour la première fois, en fait, à Cannes, il y aurait un film qui représenterait Cuba. Ça donnerait une visibilité, si tu veux, à la révolution cubaine en Europe. Quoi.
Mais comment ça...
Alors, ouais, attends, juste, excuse-moi, sur l'histoire de la narration, quand même, je vais te répondre. Donc, c'est un scénario très, très ambitieux. Qui fait 180 pages. Moi j'en ai une copie là, donc en espagnol. Hein. Effectivement, quand tu lis le scénario et que tu compares le film au produit fini, ouais, tu te rends compte qu'ils ont. Ben, je sais pas à quel. Est-ce que le film était vraiment fini, le film de 3 heures, hein, puisque 180 pages, ça devait faire un film de 3 heures à peu près. Est-ce qu'il était fini, après ils ont coupé dedans, ou est-ce qu'ils ont. Ça, je sais pas, tu vois, j'ai pas. Voilà. Ou est-ce qu'ils ont simplement. décidé de ne pas monter un certain nombre de scènes quoi, qu'ils ont jugé accessoires, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, le montage, après, donc, le film est tourné en 62, début 63, il est monté à Paris, donc, tu vois, pendant la fin de l'hiver, avec Gatti, Hélène Charvin, qui était la monteuse, hein, et avec l'aide de Chris Marker.
D'accord. Voilà,
parce que Chris Marker se sentait un peu responsable aussi du projet.
Mais juste alors, deux questions. C'est la première question, c'est comment ça se fait ou comment ça s'explique que le gouvernement cubain révolutionnaire représenté par Castro ait une telle confiance en Gatti pour investir une super production. Ça serait ma première question. Mm-hmm. Et en lien à ça, comment il est reçu à Cannes en 63?
En fait, super production, ce serait la définition qu'on donnerait dans une économie classique. Mais bon, l'économie du cinéma cubain, en fait, voilà, c'est pas du tout une économie classique, puisqu'on est dans un système où tout est nationalisé dès le début de la Révolution. Hein, en mars 59, il y a une loi sur le cinéma. Donc en fait, si tu veux, il n'y a même pas d'enjeu d'argent. Voilà, enfin, c'est assez limité. Mais c'est le problème, en fait, c'est surtout matériel, quoi.
Mais on donne beaucoup de matériel, c'est qu'on fait, on a quand même une grande confiance dans Gatti.
En fait, ouais, enfin, le matériel, c'est pas du matériel de fou, hein.
Ouais, ouais.
C'est tourné avec des bouts de ficelle, en fait, quoi. Le décor, il est bricolé. Voilà, c'est pas une super production au sens.
Mais ils connaissent
Hollywood, quoi.
Castro connaît ce qu'a fait Gatti. C'est ça qui fait qu'il a. Ou comment.
C'est le festival de Moscou, si je me souviens bien. C'est la suite de.
De l'enclos,
de la projection de l'enclos.
Ouais. Ouais, alors peut-être Castro il a vu l'enclos, peut-être ça je sais pas, hein. Franchement.
Castro peut-être pas lui-même.
Comment ?
Peut-être pas Castro lui-même, mais
ouais.
Les représentants.
Ceux qui vont monter ensuite du caïque,
je crois que c'est ça. Voilà, alors au niveau de. Ouais, moi je crois que ouais, le projet il est vraiment impulsé au-dessus de l'ICAIC, quoi. Ça dépend pas vraiment de l'ICAIC.
L'ICAIC est le CNC.
Ouais, c'est l'équivalent du CNC cubain, ouais. Là c'est l'Institut cubain de l'art et l'industrie cinématographique, ouais, donc c'est ça la structure étatique qui gère le cinéma cubain. Mais moi, en fait, le projet est impulsé de plus haut. Parce que le dirigeant de l'ICAIC à l'époque, donc, quasiment 50 ans, c'était quelqu'un qui s'appelait Alfredo Guevara, qui n'a rien à voir avec Ernesto Guevara, mais qui était hostile, en fait. Enfin, Gatti me racontait qu'il lui avait mis des bâtons dans les roues pour faire son film, quoi. Voilà, donc un pro, si tu veux, du cinéma, était un peu un professionnel du cinéma. Qui réfléchissait en termes de production était plutôt hostile. Donc ça viendrait de plus haut. Après, un autre responsable du cinéma cubain, c'était donc de l'ICAIC, c'était Saul Yelin, qui lui, au contraire, était très sur cette politique d'ouverture vers les intellectuels occidentaux. Donc lui, il était très favorable au film. Voilà, donc à la tête de l'ICAIC, c'était un peu mitigé. Et Saul Yelin d'ailleurs, il joue dans le film à un moment, il y a une réunion comme ça internationale qui dégénère en comédie musicale. Et il se met à chanter une sorte de truc à la Gershwin, je sais pas quoi, West Side Story, une sorte de comédie musicale de Broadway, tu vois. Et voilà, ça c'est Saul Yelin, et lui il était très proche, très ami avec Marker, Varda.
Ok, ouais, donc t'as toutes ces filiations qui. Et à Cannes, alors, ça donne quoi cette première projection? On a un peu des échos de...
Ouais, à Cannes, bien sûr, oui. Donc, alors à Cannes, déjà, c'est compliqué parce que donc, Cuba propose ça. Les dirigeants du Festival de Cannes reçoivent une directive du ministère de la Culture qui leur dit qu'on ne veut pas de Cuba. Donc, finalement, le film est quand même diffusé. Mais pas dans la sélection officielle. Alors en plus la projection se passe très mal parce que donc à ce moment-là il y a un litige parce qu'il y a un producteur français. C'est une coproduction franco-cubaine. Il y a un producteur français dont moi je sais pas grand-chose mais qui s'appelle Ulrich.
Avec qui il a produit l'enclos.
Voilà qui était le producteur.
Il a permis de produire.
Voilà, qui était le producteur de l'enclos. Et donc il va y avoir un litige entre l'ICAIC et le français, le producteur français. Puisque en fait dans le générique, le film est présenté uniquement comme produit par ICAIC. Alors effectivement, scénario de et Ulrich, enfin, qui en fait est le coproducteur, mais je crois qu'il n'a pas mis beaucoup d'argent. Mais bon, en tout cas, il a demandé à des huissiers d'empêcher la projection du film, puisque il s'était présenté uniquement comme production cubaine, comme si les Cubains avaient essayé de s'approprier le truc. Bon, alors qu'en fait, c'est les Cubains qui ont mis quand même, je dirais, 95% des moyens, quoi. Bon, mais la projection, ils trouvent un arrangement. Bon, c'est le détail, hein, si tu veux, c'est le détail. Ils trouvent quand même un arrangement, à condition qu'au début de la projection, on dise que ça apparaît pas dans, que quelqu'un dise oralement, ça apparaît pas dans le générique, mais Adam Ulrich est producteur et coproducteur. C'est une coproduction franco-cubaine. Voilà, le film est projeté une fois. Alors, on peut lire hein, les critiques.
Il y a des critiques.
Voilà, il y a des journalistes qui sont là. Hein, donc, il y a Yvonne Babi du Monde. Voilà, il y a le Figaro. Il y a tout le. Tout le
alors, tout la journée. Critique du Figaro est terrible.
Voilà. Alors, les critiques. Alors, dans l'ensemble, sont très très mauvaises.
Ah ouais, elles sont très mauvaises. Ouais,
ouais. À part celle de l'Humanité. Hein. Ouais. Voilà, à part celle de l'Humanité. Mais même Yvonne Babi, qui était quand même quelqu'un d'assez ouvert sur le cinéma moderne et tout, hein, voilà, qui a défendu, je sais pas.
Je me souviens, dans le Figaro, on le compare à une sorte d'Elsa Popine ratée.
Ouais, ils disent ça, ouais.
Ou un film de Jean Baratier qui aurait pas le. Ah voilà, il y a. Côté baroque.
Dans le monde, elle dit c'est totalement délirant. Donc suivre des délires pendant deux heures, c'est fatigant. Voilà. Et voilà, bon, l'Humanité, ils sont plutôt élogieux. Enfin, ils font pas une analyse très approfondie du truc, mais ils disent voilà.
Et ces critiques, elles ont quoi comme légitimité cinématographique?
Bah, c'est les critiques officielles. Quoi.
Ouais, non, mais je veux dire, est-ce qu'elles sont influencées par un point de vue politique qui fait
ben oui, tu vois bien. Ouais,
ouais, ouais, voilà, t'as ça qui.
Ah oui, oui.
Parce qu'en soi, le film, d'un point de vue purement cinématographique, quelle est sa puissance ou pas ou,
bah, après, ça.
Ça oui, ça reste.
Je peux pas, oui, ça reste.
C'est un grand film raté, quand même.
Moi, je dis que c'est un grand film raté, mais.
Oui,
pour moi je peux pas juger. Ouais. Enfin, je peux te dire ce que.
Ton point de vue quoi.
Mon point de vue, c'est que voilà, c'est que c'est un film fascinant, mais que c'est un film raté. Ouais.
D'accord. Voilà. Okay.
Ouais, c'est un grand film raté, ce que je disais l'autre jour là. Ouais. Alors on peut expliquer pourquoi grand, on peut expliquer pourquoi raté, mais voilà.
Ouais, bon, on va en parler, mais. Et donc ce qui fait qu'après il a une vie après ça.
Voilà, donc le film ne sort pas parce que finalement ce contentieux n'aboutit pas.
Ouais, contentieux
donc le film est bloqué en France. Donc il va être bloqué. Jusque à la fin des années 80, à ce moment-là, Gatti, bon, par l'intermédiaire de quelqu'un important, qui est son secrétaire, son producteur en quelque sorte, c'est Jean-Jacques Ocart, hein, son compagnon en fait, son compagnon de artistique, quoi, va racheter les droits de Ulrich. À ce moment-là, le film va sortir en VHS.
En VHS.
Ouais, ouais. En VHS chez Dorian Film, donc ceux qui font Peter Watkins et tout ça.
Ah ouais.
La VHS, elle est tirée de cette copie là que vous avez essayé de montrer l'autre soir là, qui est pourrie.
Oui, la VHS.
Voilà. Ouais. Elle est tirée de cette copie pourrie.
Ça lui donne une deuxième vie ou
non, c'est pas du tout. Okay. Alors oui, après il y a la question du public cubain.
Oui, parce qu'il est projeté après ça.
Il est projeté à Cuba. Ça aurait été bien qu'il y ait la copine qui connaît bien Cuba là, parce qu'elle aurait pu nous éclairer un petit peu là-dessus. Le film va passer une semaine. Bon, il va sortir dans les gros cinémas de la Havane. Hein. Alors, à la Havane, t'as des cinémas qui ont été faits par les Américains qui sont géniaux, des années 50 comme ça. Là. Donc, il passe dans les grands cinémas. Mais pendant une semaine, bon, j'ai eu l'occasion d'interviewer les techniciens et tout ça, enfin, un certain nombre de techniciens et d'acteurs quand je suis allé sur place. Bon, ils me disent que les salles étaient pleines et tout, qu'il y avait plutôt un bon accueil. Mais après, si tu regardes un petit peu après, j'ai discuté un peu avec des gens plus officiels de l'ICAIC. Ils m'ont dit que le film était raté, que ça pouvait pas parler au peuple, quoi. Donc là, on va toucher un problème vraiment avant-garde et politique, quoi. C'est-à-dire, c'est bien joli de faire des formes qui cassent les codes bourgeois de la narration, tout ça, mais...
Tout de suite comparé à Seul Cuba, en fait.
Si les gens peuvent pas comprendre... Alors, Seul Cuba, si tu veux, il n'est pas encore sorti, Seul Cuba, à ce moment-là.
Il n'est pas encore sorti quand le film est projeté à Cuba
Moi, je te parle simplement de la... Je te parle simplement de la sortie à Cuba, au printemps 63. Quoi. Et voilà, donc le film, les gens, le peuple ne peut pas comprendre ce film, parce que c'est un film délirant, donc c'est pas un film qui va parler aux gens, donc on va le montrer un peu aux intellos de la Havane, mais bah après basta. Et en plus, il y a un souci. Donc là, ça aurait été bien de discuter avec quelqu'un qui se connaît un peu mieux sur Cuba par rapport à la religion. Parce que c'est un film qui, voilà, comme tu lisais un peu le résumé, donc, c'est une sorte de combat avec les dieux du panthéon cubain, donc la Santeria, voilà, cette religion d'origine africaine qui est très présente à Cuba. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il y a un bon quart ou un bon tiers des Cubains qui sont santos, quoi. Hein, donc ça, c'est une sorte de satire du panthéon des dieux afro-cubains, quoi. Et donc ça, c'est compliqué parce que c'est sensible, si tu veux, par rapport à, si on veut montrer ça au peuple alors qu'un tiers des gens pensent que c'est quelque chose de sacré, tabou, voilà, c'est compliqué.
Parce que là, il y a une phrase dans le document que Videodrome 2 a fourni avant la projection de, je ne sais pas c'est qui là, de Juan Antonio Garcia Borrero, mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire, où il écrit « Peut-être que cela aurait permis à Getty de comprendre qu'il n'y a pas exactement une façon d'être cubain, qu'on ne trouve dans aucun autre pays, mais au contraire que les Cubains, comme le reste de l'humanité, sont aussi obsédés par le désir d'être heureux. » Et il écrit dans ce texte qu'on avait l'impression que Getty avait bien compris le peuple cubain,
c'est vrai.
Mais aussi d'une certaine manière, il l'avait aussi beaucoup unifié.
C'est vrai qu'en discutant avec les gens qui ont collaboré au film, il me dit c'est impressionnant, Getty, il a passé 2 mois un peu à Cuba en train d'écrire son scénario, de s'imprégner de la culture, et on retrouve vraiment la culture cubaine, afro-cubaine en fait, la partie africaine qu'il y a dans la culture cubaine, voilà, Cuba étant un pays ultra métissé quand même. Au niveau de la musique et au niveau de la graphique, quoi. Au niveau graphique, parce que t'as des séquences dans le film, en particulier la séquence de l'enterrement de la Vierge, où tu vas retrouver voilà, des motifs visuels, si tu veux, artistiques qui viennent de cette culture afro-cubaine. Et c'est un peu la même. Moi, quand je compare ça un petit peu à Eisenstein au Mexique, quoi. Voilà. Quand tu...
C'est-à-dire, sois plus précis pour nos auditeurs.
En fait, donc Eisenstein, je ne sais plus quand c'est que ça se passe, dans les années 30, quoi. Il va tourner un film au Mexique, qui est plus ou moins produit par les Américains. C'est aussi un grand film raté.
Qui
s'appelle Inachevé, enfin voilà, donc Eisenstein n'a jamais réussi à monter son film, puisque le matériel de ce qu'il avait tourné a été retenu, si tu veux, par les Américains. Et donc le film s'appelle Que Viva Mexico. Et voilà, et en fait Eisenstein il était totalement imprégné de ce qu'il a pu voir là-bas aussi. Voilà, le Mexique étant aussi un pays très métissé, donc là c'est la culture indienne, hein, en fait. Bon, c'est pas comparable avec le... Voilà, mais c'est un peu le même... On va retrouver graphiquement des trucs proches, quoi. Entre les deux films. Là, c'est marrant. Mais bon, c'était une petite comparaison.
On parlait de ce film qui est très dur à voir, mais vous nous expliquez qu'il va y avoir une copie 35 qui va être ressortie et qui sera possible d'être, et qui va ressortir un peu et qu'on va pouvoir le voir. C'est pas une copie 35.
Non, c'est une restauration numérique à partir de la copie 35, mais c'est pas une copie 35 qui va ressortir.
D'accord, ouais. Une restauration numérique. Et la question que je voulais te poser, c'est toi ou vous, après avoir vu le film, qu'est-ce que Getty a voulu faire à travers ce film ? Qu'est-ce qu'il a voulu tenter, raconter, expérimenter ?
Getty, il a voulu faire un film qui parle au peuple, quoi. Il a voulu faire un film qui parle aux Cubains et à tous les révolutionnaires.
Un film de propagande ?
Non, c'est pas du tout un film de propagande. Il parle pas de problèmes politiques concrets, quoi. Ça se passe toujours au ciel, ça se passe au ciel, quoi. C'est un film, tu vois, métaphysique, en fait. En discutant avec lui, hein, c'est lui qui me disait ça, hein, qu'il était vachement influencé. Il voulait faire un peu la même chose que les cinéastes soviétiques dans les années 20, quoi. Son modèle, c'est Dovzhenko, en fait. C'est-à-dire quelque chose, tu vois, à la fois politique, en même temps puissamment politique, quoi. Donc essayer de trouver une forme à la fois politique et politique, sachant que bien souvent faut choisir entre les deux, quoi. Ouais, ouais, enfin, d'accord. En quelque sorte, quoi. Ouais.
Et donc, ce désir qu'il a eu de parler au peuple, est-ce qu'il réussit au final? Est-ce qu'il réussit pas?
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un film raté, parce que c'est un film sans public, quoi. Alors voilà, donc là, on peut évoquer la question d'aujourd'hui, quoi, puisque finalement, ce film, c'est quasiment un film, on peut dire, qui n'aurait pas été vu, hein. Voilà. Parce que Julien évoquait la sortie, finalement, la sortie du film. Donc, comme je disais, Gatti et Ocar ont racheté les droits à la fin des années 80. À ce moment-là, donc la copie dont ils disposent, c'est cette version donc, qui a été montée pour Cannes, voilà, avec cette voix off qui vient faire du lien, qui vient coller les fragments, qui vient boucher les trous de ce qui a été coupé, quoi, des ellipses. Voilà. Et donc je suis allé à Cuba il y a une petite dizaine d'années avec l'idée donc de rencontrer les techniciens, un certain nombre d'acteurs, de techniciens qui ont participé au film. Et comme je voyais quand même assez régulièrement Gatti et Jean-Jacques Ocar à ce moment-là, je leur ai dit on peut essayer de voir ce que les Cubains ont comme matériel et puis essayer de refaire de restaurer le film et de le ressortir. Parce qu'il faudrait quand même remonter au matériel original, quoi, c'est-à-dire en fait au négatif, hein, qui se trouvait à Cuba. Puisque en France on n'avait que cette copie, voilà, une copie d'exploitation. Quoi. Donc là tu peux pas faire. Enfin, oui tu pourrais, mais. Donc voilà.
Le négatif que tu n'as jamais trouvé, parce que la copie qui se trouve à Cuba, c'est aussi ce qu'on appelle un marron. Quoi.
Ouais, c'est ouais. C'est un marron. Ouais.
C'est pas le négatif.
Non, on n'a pas trouvé le négatif. Mais bon, en tout cas, quand j'étais sur place, j'ai essayé un petit peu de localiser ce qui pouvait rester de matériel. Bon, en fait, j'ai pas réussi. Hein, parce que c'était hyper dur d'entrer en contact avec les gens de l'ICAIC, hein, comme toute administration. Mais j'avais quand même quelques contacts. Bon, donc au final, ce que j'ai obtenu, c'était voilà, il y a tant de bobines, donc effectivement du marron, là, dont parlait Julien, qui, avec le détail de l'état physique, tu vois, très, très dégradé de ce matériel-là. Et là actuellement, toutes les bobines en fait des archives filmiques cubaines sont inaccessibles parce que les bâtiments étaient en train de refaire le centre des archives, donc elles étaient entreposées quelque part dans une cave à Cubanacan.
D'accord, donc cette question des rushs par exemple, ouais. C'est une question non élucidée, c'est-à-dire qu'ils existent peut-être.
Peut-être. Après moi j'ai appelé LTC tout ça, mais ils m'ont dit que ça a été détruit. Quoi. C'est ressemblable quoi. Ils ne s'amusaient pas à garder les trucs une fois.
Comment le film maudit.
Et alors donc le film existe, tu vois, ils m'ont donné un papier, alors il y a tant de rouleaux, c'est dans tel état, dans un état très mauvais, voilà, à Cuba le climat est vraiment très mauvais pour c'est pas climatisé, c'est très humide, voilà. Et alors à ce moment-là, on a donc Jean-Jacques et moi on est allé voir le CNC. Donc Éric Leroy, qui était quelqu'un assez important au CNC, qui est mort depuis. Et lui, il était hyper séduit par le projet. Il a dit ouais, donc on a signé un truc. Si Cuba accepte de nous prêter les bobines qu'ils ont, le CNC va les restaurer gratuitement et les renvoyer à Cuba. Voilà. Et en fait, et ça s'est résolu assez récemment.
D'accord.
En fait, Hollande a fait un voyage à Cuba et ça faisait partie du. Il était justement avec la directrice du CNC, je ne sais plus comment elle s'appelle, et à ce moment-là, ils ont. Le matériel est venu ici, quoi. Donc c'est à partir du matériel cubain que ça a été fait, non le... Parce que toi, tu disais que la copie, elle a été. Ou alors ils ont utilisé les deux, peut-être, je ne sais pas. Si tu faisais la copie que vous avez eue, elle a été niquée par la restauration.
Oui, sûrement. On n'a pas réussi à. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué, mais on n'a pas réussi à assurer la projection parce que la copie qu'on avait, donc la copie 35, était dans un état tel qu'elle ne supportait pas le passage dans le projecteur. Donc, Et effectivement, on l'a reçu, c'était un véritable sapin de Noël. Il y avait des marques et des bouts de ficelle accrochés aux perforations un peu partout. Et on a supposé effectivement que c'était la copie qui avait été utilisée pour faire la restauration qui est en cours. Hein. Et que les ficelles marquaient comme ça les endroits de restauration
à
travailler sur la copie, des rayures profondes, des... Enfin, c'est pas...
Est-ce que c'était la... Est-ce que peut-être cette copie que vous aviez là, donc c'est qui est la copie de Cannes, en fait, de il y a 55 ans, c'était peut-être leur référence, quoi. C'était leur...
Alors c'était la référence parce que c'était la...
C'était un guide, quoi.
C'était la... Mais alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est-à-dire que... Je ne sais pas s'il existe une copie de ce film ou deux copies de ce film, à savoir la copie qui est la copie cubaine,
oui, oui.
Et la copie, oui. Et la copie française.
Oui,
disons.
Oui. Ouais.
Et je ne sais pas ce que c'est que celle-ci en fait.
Ça c'est la copie française que tu as.
Oui, mais
la copie cubaine elle n'est même pas sous-titrée. Hein.
Elle n'est même pas sous-titrée. Non. D'accord. Donc c'est la copie française.
Enfin, elle est
mais la copie qui a ramené Hollande, qu'est-ce ouais. qu'elle.
Moi j'ai jamais vu celle-là.
Mais je pense celle-ci que... est toujours en France alors que j'ai pas compris.
Ah maintenant elle a été restaurée et les Cubains l'ont récupérée.
D'accord, la copie a été restaurée et renvoyée à Cuba. D'accord.
Ouais. Okay. Enfin bon, ça, ouais. Il faudrait demander en fait à ceux. Il faudrait qu'on rencontre ceux qui ont restauré le film et savoir exactement comment
c'est. Là, c'est le CNC.
Il y a toute une enquête encore à mener.
Ouais, bon.
Moi, je voulais revenir
après,
sur.
Après, c'est
une...
pas.
Ouais. Non, c'est par curiosité. Mais je voulais revenir à un moment où on a évoqué quelque chose, c'est-à-dire que dans cette période, pour, tout en restant sur Getty, mais aussi en élargissant, puisqu'on a parlé de Marker, de Varda, il y a tous ces cinéastes et ces intellectuels, mais là on parle de cinéma, qui ont cette volonté de participer à des luttes révolutionnaires
ouais.
et de faire des films avec certains. Qui ont une intention plus forte sur la question de faire des films pour le peuple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cet endroit-là ? Est-ce qu'il y a des cinéastes qui ont plus réussi ou que finalement peu de cinéastes ont réussi ou... Mais cette problématique,
ouais,
je la trouve
intéressante. Ouais, c'est tout le cœur de la problématique du cinéma politique. Quoi.
Je ne sais pas ce que tu en penses concernant Getty, j'ai jamais eu l'impression, mais quels que soient les projets qu'il a menés d'ailleurs, que ce soit même dans les usines de Montbéliard, Peugeot ou... j'ai jamais eu l'impression qu'il faisait des films pour en l'occurrence El Otro Cristobal pour le peuple, mais plutôt
avec,
et plutôt dans une optique d'offrir, tu vois, à la révolution cubaine un film par exemple, tu vois, j'ai jamais eu l'impression que Getty avait cette vocation à témoigner pour.
Non, c'est pas des films de témoignage. Non, oui, offrir ce film à la Révolution, ça, ouais, on pourrait dire que c'est une bonne formule. Et ça, pour le peuple, c'est vrai que ça veut un peu rien dire, faire un film pour le peuple, mais en tout cas avec, parce que il y a vraiment l'envie de travailler en harmonie avec, tu vois, avec les Français comme les Cubains qui m'ont parlé du tournage du film, ils ont dit qu'il y avait, ils disent compénétration, quoi, et tu vois, une harmonie très très forte, une entraide très très forte entre les Français et les Cubains, donc c'est vraiment faire avec, quoi. Et Getty, tu vois, il parle à tout le monde, quoi. Il est avec ses acteurs principaux, mais il est aussi avec le dernier figurant et tout, quoi. Getty, c'était un mec, tu vois, ultra communicatif, quoi. Il était passionné par discuter avec tout le monde. Et le film à Peugeot, là, Le lion saccage et ses ailes, c'est ça, c'est l'envie. En fait, c'est le processus de tournage qui est peut-être une fin en soi. Ouais. Voilà, c'est faire une expérience.
La même chose pour son dernier film signé, qui est en fait son film le plus collectif, qui est Nous étions tous des nombards. Là, ça se passe en Irlande du Nord, à Derry. Et le film est une aventure absolument collective. C'est la collusion entre les gens qui arrivent avec Getty, un peu comme avec El Otro Cristobal, donc l'équipe technique, Stéphane Getty, Hélène Châtelain, les frères Dardenne, et puis les habitants de Derry, et puis ceux qui ont participé au film et qui faisaient partie d'un endroit qui s'appelait le workshop. Enfin voilà, il y a toujours cette notion de travail, travail collectif.
Ouais, c'est la même chose aussi même pour le théâtre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le processus de création avec des gens qui ne sont pas des pros du théâtre, parce que voilà, c'est le travail avec des marginaux, Getty disait, c'était avec des loulous, quoi. Tu vois, avec des...
Donc il se situe de...
Le processus lui-même est, plus, est aussi important que le résultat. Et en fait, ça c'est très vrai en fait, de tout le cinéma militant de cette époque-là. Hein.
Même de Chris Marker.
L'expérience Medvedkin, le processus de création est aussi important que le résultat. En fait.
Et on peut dire la même chose de Loin du Vietnam, Le Fond de l'air est rouge.
Le Fond de l'air est rouge c'est un peu différent parce que c'est un film d'archives. Donc il y a vraiment... Enfin bon, d'une certaine manière, c'est parce que c'est un film collectif qui brasse des tonnes et des tonnes de films qui viennent de partout. Mais voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est très beau dans cette utopie du cinéma militant là, qui se développe en France à la fin des années 60. C'est tout le monde est sur le même plan, quoi, c'est-à-dire
une horizontalité.
Ouais, il n'y a pas d'hiérarchie. Celui qui est derrière la caméra il est aussi important que celui qui est devant la caméra. Celui qui est filmé a aussi son mot à dire sur comment on le filme. Il y a vraiment cette envie de faire un truc très horizontal, quoi. Donc ça c'est vraiment très chouette parce que en fait la micro-expérience du tournage c'est une expérience politique en soi, ouais. C'est à dire voilà, c'est bien joli de faire des films pour dire vive la révolution nanana, mais voilà, la vie du film, le développement du film, il est déjà, il fait partie de ce moment utopique. Mais bon, Comoli il explique bien ça, hein. Il y a des textes super de Comoli où il dit ça, quoi. Le problème de la voilà, c'est le problème du collectif, quoi, le nous, quoi. Comment tu crées du nous, hein, voilà, comment le cinéma tu crées du nous et comment l'expérience elle-même est déjà une sorte de contre-modèle politique, une sorte de contre-société, une petite expérience communautaire, quoi. Ça c'est chouette, ça c'était important. Après maintenant ça existe encore, hein, ce genre de...
Oui, voilà. Oui, tout à fait, ouais.
Mais bon,
ouais.
Ça,
mais qui viennent de là d'ailleurs.
Qui viennent de là, ouais.
Beaucoup de là, quoi.
Faut dire aussi qu'à cette époque-là, bon, c'est un moment où il y a un accès qui se facilite au matériel. C'est plus forcément les professionnels de la profession qui peuvent faire des films. Tu vois, il y a du matériel léger qui apparaît.
Ouais, ouais.
Bah, c'est le matériel qu'utilise la Nouvelle Vague, quoi, au début des années 60. C'est le matériel le Jean Rouge, quoi.
Ouais, voilà, ouais.
C'est le Nagra, c'est les caméras 16 mm, des trucs comme
ouais,
ça.
Ouais. Ouais, et puis qui correspondent un peu à l'époque du cinéma vérité où on sort dans la rue. Mmh. Mais léger, on peut dissocier le son de l'image, quoi.
Ouais. Et donc quand apparaît le numérique ou la vidéo, chaque fois cette utopie est reconduite. Tu vois Godard avec la vidéo par exemple, qui était un pionnier quand même. Ouais, puis après avec le numérique, voilà. T'as...
Avec les groupes d'Iga Vertov, ils tournent en vidéo ou en...
Non.
Non, ils tournent en pellicule.
Non, non, ça c'est encore en péloche.
Encore en péloche.
Une des premières expériences vidéo en France, pas la première mais une des premières, c'est Le Lion saccagé ses ailes.
Oui.
C'est un film qui est tourné entièrement en vidéo en
1976, je crois.
Ouais, et c'est vraiment les tout début de la vidéo. Le film est en noir et blanc.
Ouais.
La vidéo est en noir et blanc à cette époque.
Sur le début de la vidéo, ouais, c'est un épisode assez marrant. Alors, bon, après, il y a plusieurs sources. Mais moi, je lisais dans la biographie de Jean Genet, donc Edmund White. Il disait, il parlait justement de... il parlait de ça. Carole Roussopoulos. Ouais, il dit ça, hein. Carole Roussopoulos, ça a été la première à acheter le matos, et Godard, c'était le deuxième. Il y avait un magasin dans le 10e arrondissement qui a commencé avant des sortes de magnétoscopes Sony. Voilà. Donc, c'est
d'accord.
Et donc ça correspond en fait à Godard juste après le groupe Ziga Vertov. C'est l'utopie vidéo, donc Sony Image à Grenoble, où je peux faire mes films tout seul. Voilà, c'est vrai qu'après, toutes ces petites révolutions techniques, elles font revivre aussi, enfin à chaque fois on redécouvre cette idée, ben voilà, en fait les caméras elles sont accessibles à tous et on peut tous faire des films et on peut développer des projets collectifs, ouais, donc c'est intéressant. Alors après si tu veux, on peut revenir sur Cuba là, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, mais bon c'est vrai qu'on digresse un peu, mais par rapport au côté idéologique, tu me demandais le cinéma pour le peuple et tout ça, alors faut voir que... Comment dire, l'expérience politique cubaine, donc la révolution cubaine, tu vois, dans le contexte, c'est quand même, on est encore dans la guerre d'Algérie. Hein. Voilà, la révolution cubaine, 59, la guerre d'Algérie. Il y a la guerre du Yémen qui va commencer tout de suite après, 65. Le milieu des années 60, c'est au moment où on découvre aussi la question palestinienne en France. Quand même. À ce moment-là, ce qui se passe politiquement, je ne parle pas de cinéma à ce moment-là, mais tu as un certain nombre de militants communistes qui peut-être s'était rendu compte de rien jusqu'au au rapport Khrouchtchev du 20e congrès sur la réalité du stalinisme et du parti communiste français. Bon, en tout cas à ce moment-là, en 55, il y a une crise, tu veux, au sein d'un certain nombre de militants communistes, parce qu'ils se rendent compte de ce que c'était le stalinisme avec donc, ce fameux rapport du 20e congrès. Et quand apparaît Cuba, donc en fait, bon, ils se rendent compte en gros, les héros du marxisme n'étaient pas très marxistes, quoi, en gros. Hein. Et c'est vrai que l'expérience cubaine ou la Chine aussi, hein, c'est pour ça aussi l'essor du maoïsme en France, quoi. C'est ça aussi. On va penser qu'il y a un modèle alternatif qui n'est pas soviétique, qui n'est pas figé comme ça peut être, qui n'est pas une dictature. Il y a l'espoir que d'un autre socialisme. Voilà. Et donc Debré, à un moment, il écrit ce bouquin qui s'appelle « Révolution dans la révolution ». Il y a une nouvelle révolution qui va mettre l'expérience soviétique au placard, en quelque sorte. Quoi. Ce serait le socialisme avec la liberté, quoi. C'est un peu ce qui, au printemps de Prague, c'est un peu aussi l'espoir qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Donc, pendant un moment, Cuba va incarner ça, c'est-à-dire un socialisme non pas glacé, mais solaire et souriant, quoi, en quelque sorte, quoi. Bon, après, ils vont déchanter, hein. Ce qu'on appelle la lune de miel de la révolution cubaine, qui va durer à peu près une dizaine d'années. Et puis après, ben oui, tiens, mais le sort des homosexuels à Cuba, le sort de certains artistes à Cuba, l'affaire Padilla, donc un poète qui est contraint à faire une autocritique, à ce moment-là, ça a pas mal d'écho dans l'intelligentsia française, et à ce moment-là, justement, Sartre dit, voilà, ben, maintenant nos chemins se séparent.
Et sur,
on découvre la réalité d'une dictature qui est à peu près du niveau de l'URSS. Et c'était pas faux, quoi, puisque tu vois, on voit encore aujourd'hui, quoi.
Mais pour revenir au cinéma, à ce moment-là, avec tous ces films de, on peut dire, cinéma militant, ou je sais pas, ou cinéma de... Je sais pas comment les nommer, mais est-ce qu'il y a de l'autocritique des cinéastes sur qu'est-ce qu'ils produisent comme forme ou comme objet ou,
Les cinéastes français, je sais pas. On peut prendre des exemples précis, ouais. Et ben, c'est un cinéma profondément autocritique. Tout à l'heure, tu parlais de Ici et ailleurs.
Ouais.
Voilà, le film de Godard sur le Vietnam, ça, c'est un film autocritique, quoi.
Mais qui arrive à la fin de cette histoire.
Alors ça arrive en 76, quoi.
Ouais, il boucle un peu, ça comme s'il bouclait cette histoire.
Ouais, ouais. Ouais, moi, je pense que là, si on s'intéresse, voilà, à ce côté, les Français qui ont soutenu, qui ont appuyé les révolutions étrangères, les luttes anti-impérialistes étrangères, etc. T'as un moment, tu vois, en 67, par exemple, t'as un premier moment, on va dire. Un premier moment dans les années 60, peut-être Cristobal, qui veut pas faire du cinéma politique, ils sont contre. Enfin, Gatti, il a bien conscience qu'il veut pas faire du réalisme socialiste, quoi. Il veut pas faire de propagande. Donc, cette forme délirante, c'est une manière de faire de la politique tout en délirant, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est du cinéma pas exploitable directement en termes politiques, quoi.
Et puis, qui correspond pas seulement à ce moment-là, dans l'œuvre de Gatti, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui marque toutes les expériences et cinématographiques et théâtrales, à savoir un rapport à l'histoire qui est vraiment halluciné, quoi.
Enfin voilà, bon, Gatti, ça n'a jamais été du théâtre directement politique ou du cinéma directement politique, quoi. Mais tu vois, par exemple, Loin du Vietnam, qui correspond quand même à ce moment-là, quoi, le film, ouais,
la première phase,
le film de Marker et Godard et Varda et René, etc. Voilà, ça s'appelle Loin du Vietnam. Voilà, et je crois que les sketchs, enfin les séquences les plus parlantes, là, c'est justement celle de Godard et celle de René. Ils disent quelle légitimité moi j'ai à parler du Vietnam alors que je me prends pas des bombes sur la gueule. Il dit ça texto Godard dans son film. Donc ouais, on veut appuyer, on veut soutenir. En même temps, quelle est notre légitimité? Est-ce qu'on risque pas de parler à la place d'eux? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, cinéaste parisien, faire un film sur le Vietnam où j'ai jamais mis les pieds, quoi. Donc déjà, tu vois, on est sur... Là, on est dans le discours, hein, puisque c'est un discours qui est tenu pendant le film. Mais même dans la forme, t'as des formes, c'est des formes critiques, quoi. C'est-à-dire, formellement, dans le langage cinématographique, c'est des formes critiques. Par des montages contradictoires, à la Godard, par exemple. Voilà, par, je sais pas, dans ce sketch, là, t'as des lampes flottes qui sont filmées en gros plan qui viennent éblouir le public, quoi. Enfin, t'as des trucs comme ça. où tu as des formes réellement critiques. Bon, chez Godard, ça passe surtout par le montage, et chez Marker aussi, les formes critiques, elles passent par le montage.
Parce que tu parles de la première phase, la deuxième phase, elles
sont. Donc ils sont pas naïfs, quoi. Ils ont compris un peu les contradictions qu'il y a pu avoir, je sais pas, pendant la guerre d'Espagne, ou comme ça. C'est bien joli de t'engager pour, mais.
De la complexité aussi du cinéma en tant qu'objet artistique à être à la fois un objet politique et de comment on joint cet écart, parce que Ici Ailleurs, qui est un peu je pense la deuxième phase de cette réflexion,
et Ici Ailleurs et Le Fond de l'air est rouge, c'est les deux films
qui expriment une grosse mise en crise, parce qu'au début Ici Ailleurs c'est une deuxième étape d'un film qui fait partie du groupe Tigabertov au départ, où il y a une sorte d'évidence quand ils sont dans le groupe Tigabertov, Gorin et Godard, de faire un cinéma politique, et puis finalement il laisse traîner, et là Ici Ailleurs c'est complètement un objet.
Ici Ailleurs c'est un exemple vraiment passionnant. Enfin concrètement, donc effectivement Godard et Gorin vont sur les bases jordaniennes de l'OLP en 70. Ils tournent du matériel directement politique, donc tu vois les entraînements des fédaïnes, là ils font pas dans la dentelle, là c'est fini les questionnements que tu peux avoir dans d'autres films de Tigabertov. C'est on veut faire un film pour Arafat, pour le Fatah. Sauf que le film aboutit pas, parce que juste après leur séjour, donc ils ont un ton très 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 triomphaliste, le film devait s'appeler Jusqu'à la victoire, le film original de 70. On met de côté nos petites interrogations parisiennes, germanopratines sur qu'est-ce que c'est le langage du son et des images. On fait un film vraiment directement politique. Ils rentrent à Paris. Deux semaines après, c'est Septembre Noir. Donc en fait, toute la stratégie, si tu veux, des Palestiniens d'attaquer Israël depuis la Jordanie est impossible, puisqu'à ce moment-là, les Jordaniens massacrent les Palestiniens. Donc ils mettent un coup d'arrêt à ces bases. Donc là, on a dit qu'on allait, que c'était jusqu'à la victoire. En fait, on vient de perdre, quoi. Donc le film n'est pas possible. Et effectivement, 5 ans après, Godard va reprendre le film avec Anne-Marie Bienville, justement dans cette période vidéo là, dont on parlait tout à l'heure, pour faire un film pas du tout directement politique. Comment on a pu croire qu'on allait faire un film directement politique?
Le film raconte ça, quoi. Cette mise en...
Le film, c'est une sorte de montage.
Échec,
c'est un montage systématique entre les images de 70 et des images d'aujourd'hui, où tu vois une famille de Français moyens devant la télé en train de regarder les images du Vietnam, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire consommer ici, dans un pays en paix, les images de guerre de l'ailleurs, quoi. Hein, c'est tout. Un questionnement là-dessus. Mais en fait, après, le film n'est pas non plus neutre, je veux dire nul du point de vue politique, je veux dire nul où il n'y aurait pas de message politique. Mais après, c'est une leçon plus modeste de politique, c'est bon, effectivement, moi, cinéaste, en tant que spécialiste des sons et des images, qu'est-ce que je peux faire politiquement, en fait. Je peux apprendre aux gens. C'est la période un peu pédagogique. Il y a un article de Danet qui développe ça, en fait. Il dit c'est du cinéma pédagogique, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux apprendre aux gens à comprendre ce que c'est un son et des images, et qu'est-ce que ça veut dire quand je colle une image après une autre. Donc voilà, je peux faire des... Donc mon rôle de cinéaste n'est pas de parler au nom des Vietnamiens ou des Palestiniens, alors que j'ai passé 2 semaines avec eux, donc c'est un peu léger. Mais c'est apprendre aux gens à décrypter la propagande, finalement. C'est-à-dire le sens qui naît du montage d'une image avec une autre, et le sens qui naît de l'association d'une bande-son, en général d'un discours, avec des images. Donc en fait, c'est une sorte de propédeutique pour arriver à lire, à décrypter le JT.
Mais ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une rupture ou une crise par rapport à la question du cinéma politique, après Ici Ailleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe comme autre expérience de cinéma politique, je veux dire, que ce soit Marker, Godard, ils s'orientent un peu vers d'autres films. Gatti, après ça, il fait ses films un peu jaunes, mais même à partir de là, Gatti fait plus...
Jusque dans toutes les années 70. On est dans la vague post-68, donc il y a encore pas mal de... d'utopie politique, il y a pas mal de groupes de cinéma militant qui existent à ce moment-là. On parlait tout à l'heure de Carol Onsopoulos, les films de l'Arc, de Ciné-Lutte, les collectifs militants de l'époque, quoi. Et comme tout ça retombe à la fin des années 70, et bien le cinéma politique qui retombe aussi à ce moment-là. Et donc effectivement dans les années 80, t'as plus grand chose. Ou alors t'as la fiction de gauche, quoi. Voilà, t'as Costa Gavras.
La dernière grande expérience cinématographique de Gatti, c'est Nous étions tous des non-blancs, tout à l'heure.
Ouais,
c'est 81.
81.
À partir de là, il décide d'arrêter le cinéma, en fait, Gatti.
Ah ouais, pour des raisons qu'il explique ou
Alors, d'arrêter le cinéma tel qu'il a pu l'envisager jusqu'alors, quoi. Après, c'est surtout son fils, en fait, qui prend le relais. Il arrête de tourner en pellicule. Nous étions tous des non-d'arbres, c'est son dernier film en pellicule, en 16 mm,
oui.
Produit par Aton. Et alors, moi, en tout cas, j'ai jamais entendu d'explication concrète de ça, mais c'est aussi dû à toutes les difficultés aussi qu'a pu traverser Gatti dans la production de ses films, parce que Gatti, l'œuvre cinématographique de Gatti, c'est quoi? C'est 6 films, à peu près, enfin signé Gatti, mais c'est des dizaines de scénarios. Quoi.
Ouais, il y a pas mal.
C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte qu'il avait investi la question cinématographique de manière très, très, très forte, mais qu'il a jamais réussi à pouvoir avoir les moyens des ambitions qu'il avait projetées dans le cinéma. Quoi.
Ouais, Gatti, pour lui, comme on disait tout à l'heure, ce qui compte, c'est l'expérience. Quoi. Donc, il pouvait écrire une pièce ou un scénario en deux jours. Quoi. Après, ce qui est important, c'est comment tout ça existe, avec qui tu le fais.
Donc, à partir de 81, Gatti abandonne le cinéma véritablement pour réinvestir, en fait, pour entreprendre pour continuer plutôt la déconstruction de l'écriture, du travail et de la représentation théâtrale.
D'accord, il s'oriente vers le théâtre.
Enfin, il s'oriente, il était déjà très orienté vers le théâtre.
Ouais, il continue son travail théâtral et aussi politique, parce que t'as tout le texte La parole errante, qui est voilà, un énorme texte, qui est une sorte de texte poétique assez bizarre.
Un poème de 1700 pages.
Voilà, ouais.
Qui a un lieu à Paris, La Parole errante.
Alors, La Parole errante, qui est aussi la structure.
La structure de production, qui existe d'ailleurs toujours, même malgré la mort de Gatti, mais qui a du mal à préserver sous sa forme originale. Quoi.
Ouais.
Mais je voulais faire un petit croche-patte, mais je ne sais pas si on pourra en parler, mais toute cette histoire du cinéma militant, j'ai l'impression qu'il y a une figure, un cinéaste qui est un peu à côté de tout ça, qui n'a pas cessé de faire du cinéma militant, qui est René Vautier. Qui est un peu dans un à côté de ça, parce que finalement lui il continue toujours jusqu'à la fin de faire un cinéma qui positionne lui-même comme cinéma militant quand même, non?
Cette figure, Vautier avec sa structure de cinéma en Bretagne, là il fait partie de ces groupes qui étaient très actifs dans les années 70 et il a continué, mais Carole Rousseau, après les mecs ils ont réussi aussi. Hein.
Ouais.
Mais alors, là j'ai pas... C'est quoi les derniers films de Vautier? Non, je sais plus.
Non, je sais plus, mais je sais qu'il a...
L'essentiel de sa filmographie, c'est quand même dans les années 70, il me semble.
Ouais.
Oui, 60-70. Qu'est-ce qu'il fait Vautier?
Mais je pense...
Il
fait des films vidéo sur la question des luttes des ouvriers, des luttes des femmes, dans les années 80, quoi, en Bretagne. C'est-à-dire qu'il il s'inscrit vraiment en Bretagne.
Bon, puis il y a aussi toute la mort de ce qui pouvait représenter un réseau de distribution aussi, de tous ces films-là, qui dans les années 80 commencent à mourir. C'est-à-dire tout le réseau, par exemple, des ciné-clubs, notamment les ciné-clubs de la Ligue de l'Enseignement, qui ont été un endroit de résonance quand même très très fort, en fait, de tout ce cinéma-là qui commence à disparaître avec la télévision, avec tout ça. Donc c'est structurel aussi, la disparition
c'est à tous les
points.
Après, ce qui est sympa de voir, c'est qu'au niveau des structures de production, t'as Iskra qui a continué à exister, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et voilà, donc eux ils vont faire du documentaire,
un peu plus classique.
Bah, le truc donc voilà, qui est un peu qui était plus ou moins fondé par Marker, quoi, avec d'autres. Ça existe encore aujourd'hui et voilà, ils continuent à produire un nombre assez important de documentaires chaque année. Je crois que ça tourne autour de 4-5 documentaires, peut-être un peu plus par an. Sur des questions politiques actuelles, j'en ai vu ça a remonté un petit peu, mais hein, sur, je sais pas, sur la Colombie, sur l'action des FARC en Colombie, d'autres sur qu'est-ce que c'est je sais pas, sur, tu vois, sur la famille, sur le mariage homo, c'est quoi des enfants qui sont élevés par deux femmes, des choses comme ça. Donc,
mais il y a un cinéaste qui continue un peu à faire du cinéma, on pourrait dire, avec un engagement politique dans les années 80 jusqu'à 90, c'est Robert Kramer, qui vient aussi d'une histoire du cinéma militant un peu collectif en Amérique,
qui continue
avec Millstone et puis Walk the Line, qui essaie de se mettre à cet endroit-là. Quoi.
C'est vrai.
Mais c'est 80, 90, Millstone.
Ouais, Kramer, il a continué à faire des films, après, quoi.
Jusqu'à Route One, USA, où là, ça part un peu plus dans autre chose, quoi.
Ouais, mais c'est un film politique aussi, Route One. Ouais, c'est un film du milieu de... C'est 86, je crois, Route One, un truc comme ça. Bon, c'est le milieu des années 80, où il revisite un peu les... Il parle des combats actuels. Moi, je me souviens, toute une série de séquences sur la communauté black. Je crois que c'est à... Je sais plus dans quel quartier. Enfin, non, c'est vrai, c'est un film politique aussi.
D'accord. Ok. Bon, bah, on a fait un bon survol en partant de Gatti et de son film. Donc, on pourra voir El Otro Cristobal à partir de...
Est-ce qu'il s'est joué un petit peu au terme de la non-projection qui a eu lieu, c'est qu'on s'est dit qu'on allait peut-être faire un cycle sur cette période dont parlait Sylvain tout à l'heure, à savoir cette lune de miel, les dix premières années du régime castriste qui ont été un espèce de... Enfin, qui ont agi comme un espèce d'aimant et qui a attiré énormément d'intellectuels et notamment des cinéastes, mais pas seulement français d'ailleurs, parce qu'il y a... Il y a Kalatozov, il y a Roman Carmen,
Joris Evans
qui fait des films. Et donc essayer de faire un cycle peut-être là, sur cette période de production de films, et mettre ça peut-être en miroir avec des productions là, plus spécifiquement cubaines. Et à l'occasion de ce cycle, le film sera restauré alors, et on projettera le film à ce moment-là. Enfin, on projettera le film à ce moment-là.
D'accord, et ça sera...
Il faut qu'on voit, mais...
La rentrée 2018.
Ce sera en 2018, début 2019.
Début 2019.
Ouais, le film est quasiment fini d'être restauré. Il va sortir, il va connaître une sortie en salle là.
Il va y avoir une sortie en salle.
Imminente là, ouais. C'est...
Bah, alors, juste pour la petite histoire, oui, ça a été repris par ED Distribution, qui a repris les droits du film et qui l'ont proposé cette année au Festival de Cannes pour une projection commémorative. Et ça a été refusé par Frémo.
D'accord,
Voilà. Donc,
pour des raisons.
Toujours les mêmes en fait, je pense. C'est-à-dire que. Je sais pas si Frémo a jamais vu le film, mais...
Non, je pense pas.
Pour les raisons qui sont liées à la réception de l'œuvre de Gatti d'une part, et puis à la réception plus spécialement de El Otro Cristobal d'autre part.
Donc il va sortir en salle et il va sortir en DVD.
Il va sortir en DVD, oui.
Quelques mois après, voilà.
Et c'est qui c'est Dorian aussi, non,
pour Dorian, oui. Et là, on va regarder le petit film que j'avais fait, donc un petit peu quand j'ai rencontré les techniciens, là, et ce sera aussi un bonus là, sur le DVD.
Qui s'appelle Le
Journal de Dieu.
Le Journal de Dieu, qui sera projeté ce soir, 22 avril à 18h, au Vidéodrome 2. Voilà. Bon, bah, l'émission touche à sa fin. Merci Sylvain.
Merci.
Merci Julien. Vous pourrez l'écouter sur Radio Galère 88.4. À lundi à 21h30, et sinon elle sera sur le site de dérive.tv. Et on vous souhaite un bon dimanche après-midi ensoleillé. Merci, au revoir.
resolver esta agonía que plaga otro querer. Grab her hand and make her dance. When she sweetens on your eager camera.